Carla Bruni annonce qu'elle fait don au Resto du Cœur des 60 000 euros que doit lui verser Ryanair. Logique, non? Quand on prétend avoir le cœur à gauche, mais qu'on a le portefeuille bien à droite, de préférer la charité à la justice sociale. Cette foutue charité organisée qui maintient les gens dans la résignation, les empêche de se révolter, qui donne bonne conscience aux uns et fait se tenir tranquille les autres. Faut la comprendre, Carla Bruni-Sarkozy. C'est tellement mieux pour ces 18 millions de fortunes personnelles d'entretenir une charité qui contribue à maintenir l'injustice sociale.
Salut Daniel, c'est Claire de Paris. J'appelle pour diffuser une information auprès des auditeurs et des auditrices de La Vassie J'y suis. Alors, l'association Sondons les sondages organise une action festive le samedi 9 février à 14h au 15 Place de la République à Paris. L'association Sondons les sondages critique l'omniprésence des sondages dans la vie politique et dans les médias. Alors si vous aussi vous en avez assez d'entendre à longueur de temps les instituts de sondage parler en votre nom, si vous en avez assez que les sondages appauvrissent le débat démocratique et que vous doutez de l'indépendance des instituts de sondage qui sont dirigés pour certains par Laurence Parisot ou encore Vincent Bolloré, alors rejoignez-nous pour une grande messe aux sondages pour célébrer la gloire des sondages qui illuminent notre vie. Donc rendez-vous le samedi 9 février à 14h au 15 Place de la République à Paris. Salut.
Bonsoir Daniel, Barbara. Je suis sur la route, 20h, je rentre chez moi et j'écoute les infos. Et là, j'apprends un truc édifiant. On va nommer, le mari de Carla, va nommer une commission d'examinateurs pour examiner la commission Attali. Donc, Attali a fait un rapport, et là, bon, son rapport, il a été payé, j'imagine, et là, tu vois, il va falloir, encore une fois, nommer des examinateurs qui vont être tenus d'examiner, qu'on va payer aussi. Je me suis dit qu'après tout, la chaîne n'a pas de fin, quoi. Et puis, une fois que les examinateurs auront fini d'examiner la commission Attali, on va nommer, le mari de Carla, va nommer d'autres examinateurs pour examiner ce que les examinateurs avaient bien pu trouver dans la commission Attali. Bref, flop, je vois pas à quoi ça sert, ça fait sûrement tourner la machine France, mais a priori, ça fait pas avancer le pouvoir d'achat. Allez, salut.
Bonjour Daniel, c'est juste une information. Je viens d'entendre ce matin qu'on allait relever les petites retraites, mais qu'il fallait chercher, trouver qui allait pouvoir les financer. Et en même temps, là je viens d'entendre que M. Estrosi, notre ministre d'Outre-mer, a loué un jet pour faire un aller-retour pour 170 000 euros. Bien sûr, il s'excuse, là, il vient de nous dire que s'il avait su le prix, il aurait refusé. Mais enfin, j'ai fait le calcul. Je me rends compte que ces 170 000 euros, ça représente 17 années de retraite, de petite retraite de ma maman. Ouf. Allez, bon courage.
Ben, je viens d'écouter votre émission sur les bains de douche et par la magie de la mémoire, je me suis retrouvée 60 ans en arrière. Le temps où j'allais une ou deux fois par semaine prendre une douche, douche municipale, et c'était tout de suite après la guerre. Mes parents avaient réussi à trouver un appartement, mais il n'y avait pas les commodités, juste les toilettes, mais pas de douche. Donc, aller prendre une douche, c'était un rituel et en général, on y allait le samedi et on retrouvait toujours les mêmes personnes. Et je dois dire que mon grand bonheur, c'était lorsque ma mère m'offrait un bain, parce que le bain, bien sûr, était plus cher que la douche. Alors de temps en temps, j'avais le droit de prendre un bain. Alors là, c'était le grand bonheur, c'était le plaisir de la journée. Mais c'était finalement un très bon souvenir. Et il faut se rappeler qu'il y a 60 ans, tous les appartements étaient loin d'avoir le confort. Et quand il y avait des toilettes à l'intérieur, c'était déjà presque le luxe. Merci de m'avoir ramené dans mon enfance. Au revoir.
Salut Daniel, je suis en train de regarder la liste définitive des votes au Congrès concernant la modification constitutionnelle. Et c'est assez instructif parce que on s'aperçoit que dans le groupe socialiste, pour voter pour, il y a Monsieur Jack Lang, Moi, je dis que la vieillesse est un naufrage à ce stade-là. Non, le plus intéressant, c'est une abstention qui me surprend quand même. C'est Monsieur Noël Mamère qui s'est abstenu. Lui qui est si prompt devant les caméras de télévision, qu'il adore, d'ailleurs, il n'existe que par elle, a cassé du Sarkozy, et là, en douce, ben, il en casse pas. En tout cas, il se dégonfle. Il y a Monsieur Yves Cochet aussi. Enfin bref, allez voir sur Internet la liste et puis regardez donc si vous n'avez pas votre député maire dedans. Parce que moi, j'ai donc mon député maire qui a voté pour. Je viens de couper un petit morceau ma carte électorale et de lui renvoyer. Puisqu'elle ne servira pas, puisque monsieur s'en fout de mon vote. Voilà, allez, salut et bonjour à tous les AMG.
Eh ben, merci pour ces messages, amis AMG, auditeurs modestes et géniaux. Merci, merci, merci pour ces messages. Aujourd'hui, la France a peur. La France a peur. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase célèbre lâchée un soir par un journaliste. Oh, il y a bien des années, c'était en 1976. Eh bien, La France a peur, c'est le titre d'un bouquin qui sort de Laurent Bonelli, qui est un chercheur, un sociologue, spécialisé dans la sécurité, ou plutôt dans l'insécurité. Et dans ce livre, il retrace l'histoire social de l'insécurité. C'est presque une heure entière autour d'un seul mot, insécurité. Qu'est-ce que c'est que cette insécurité ? Il y a eu des campagnes électorales entières basées sur l'insécurité, des campagnes présidentielles, souvenez-vous, de 2002, où l'insécurité avait pris toute la place. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus ? D'où vient ce mot ? Eh bien, ce mot a une histoire, et on va la raconter en deux volets. Avec Renaud Lambert, on est allé chercher dans les archives, radio, télé, toutes les traces de cette histoire. Et Laurent Bonelli, eh bien, va la retracer. Vous allez voir que ça a un écho formidable dans nos consciences et dans nos inconsciences aussi. Parce que l'insécurité, c'est la peur, et la peur, eh ben voilà, c'est un sentiment, c'est une sensation, ça, il y a une part d'irrationnel très importante là-dedans. L'insécurité, évidemment, est liée à la délinquance, à la criminalité. Or, ces chiffres qui viennent de sortir il y a encore peu de temps, il y a quelques semaines, sont toujours discutables. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'est cette insécurité, ce que sont ces chiffres de la criminalité et de la délinquance. Et pourtant, c'est là. Tant il est vrai que pour régner, il faut faire peur. La peur est un moyen de dominer, de manipuler les opinions par cette dimension irrationnelle qui est à l'intérieur même de cette insécurité. Je ne sais pas si vous comprenez, vous allez peut-être mieux comprendre d'ici à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, c'est Thierry de Saint-Denis. Alors voilà, hier j'ai assisté à la lecture d'une pièce super. Ça s'appelle « La théorie de l'échec » d'Hichem Djemahi et Elodie Chanu. C'est une pièce écrite par un jeune de Nanterre. C'est sur l'adolescence, 7 ans, lucide, plein d'humour. Le langage de ce jeune-là est drôle, sensible, intelligent, inventif. Franchement, ça fait du bien. Ça change des idées reçues sur la banlieue et sur les racailles lobotomisées. Alors, ils refont une lecture le 14 février à la Maison des Métallos et ils joueront en mai, pas mai 68, hein, mai 2008, au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Allez-y, franchement, ça vaut le coup. La théorie de l'échec, Hichem Djemahi et Elodie Chanu. Voilà. Salut à tous.
Bonjour ou bonsoir à tous. Il était une fois, les AMG de Montreuil-sous-Bois, vous savez, la ville du petit Poucet Méliès que l'ogre UGC aimerait manger tout cru. Eh bien, figurez-vous que nous nous retrouverons mercredi prochain, 13 février, à partir de 18h30, au Ratatam, 43 rue du Capitaine Dreyfus. Bonne nuit les cinéphiles.
Oui, bonjour, c'est Patrick de Lille. Je vous invite dans la ville de Lille à une conférence débat vendredi 8 février à la Maison de l'éducation permanente 1 place Georges Lyon. à l'initiative des métallos CGT 59-62, de leur institut d'histoire sociale, du syndicat CGT de l'éducation nationale et du comité de sans-papiers 59. Nous avons souhaité répondre à froid à l'injonction de Nicolas Sarkozy de faire lire dans les classes la lettre de Kim Oké. Et pour ça, nous avons organisé donc cette conférence débat avec quatre thèmes. Le rôle de la classe ouvrière dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Les industriels et banquiers français choisissent la défaite face aux nazis. Présenté par Annie Lacroix-Rise, historienne à Paris 7. L'héroïsme des francs-tireurs et partisans Moy, ces immigrés qui combattirent et moururent pour la France, avec la projection du film La traque de l'affiche rouge et une intervention du comité de sans-papiers 59 sur la chasse aux sans-papiers. Et enfin, les falsifications de l'histoire dans les manuels scolaires et les médias par le syndicat de l'éducation nationale, CGT. Venez nombreux, bonsoir.
La peur de rentrer chez soi tard. Je rentre dès la nuit tombée. Je préfère m'enfermer et me boucler à clé, hein, s'il vous plaît. Et j'ai été volée encore par-dessus le marché.
Oui, la France a peur et nous avons peur.
Mais personnellement, vous n'avez jamais été agressé vous-même?
Non, pas agressé. Mais vous savez, on se méfie, hein.
C'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert. La France a peur, avec Laurent Bonelli.
Flight number 2, arriving from New York.
TF1 20h avec Roger Gicquel. Bonsoir. La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique, depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un doux enfant, au regard profond, assassiné, étranglé, par le monstre qui l'avait enlevé pour de l'argent. La France a peur. Chaque mère, chaque père, a la gorge nouée quand il pense à ce qui s'est passé à Troyes. Quand il pense à cet assassin de 23 ans. Une relation des parents du petit Philippe. Un petit commerçant bien mis, qui a fait croire jusqu'au bout aux parents que l'enfant était vivant. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. Et comme c'est difficile de ne pas céder à cette tentation quand on imagine la mort atroce de cet enfant. La France a peur parce que les raptes d'enfants se sont multipliés d'une manière épouvantable. Il y en a eu 7 pour la seule année 75. Oui, la France a peur parce que, comme il y a 12 ans, elle ne comprend pas.
Voilà, alors amis jeunes auditeurs, c'est pas Jean-Pierre Pernaut, c'est un document qui date du 18 février 1976 et celui qui parle s'appelle Roger Gicquel. Il faut dire qu'il s'est fait une célébrité presque éternelle avec cette fameuse intervention « La France a peur ». « La France a peur », c'est le titre du bouquin de Laurent Bonelli qui sort aux éditions de La Découverte et qui a pour sous-titre « Une histoire sociale » de l'insécurité. Laurent Bonelli, bonjour. Et la première question est la suivante. Est-ce que c'est là qu'apparaît ce mot d'insécurité qui va être notre thème à nous aussi?
Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Roger Gicquel, quand il parle de cela, parle d'un drame, qui est la mort d'un enfant, mais qui reste fondamentalement un fait divers. Mais 76, c'est un moment où on va commencer à avoir un basculement et où une série de faits divers de cet ordre, qui sont des faits divers criminels, qui vont être des faits divers liés à la délinquance, vont être petit à petit agrégés en un phénomène beaucoup plus général qui va être l'insécurité. Et la fin des années 70 est un moment où apparaît cette notion de l'insécurité. Alors, je dirais pas que c'est la première fois dans l'histoire que ça apparaît, mais à ce moment-là, il y a une résurgence très forte, je dirais, de ce terme, qui va, qu'on pourrait synthétiser de la manière suivante, l'insécurité égale la délinquance plus le sentiment d'insécurité, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec les peurs, justement, de la délinquance, du crime et de la sécurité.
Mais avant tout, comment est-ce que ça se mesure? Peut-on avoir une mesure exacte de la criminalité et de la délinquance?
Je crois qu'il faut faire une différence très claire entre toute la dimension de l'insécurité dont on va parler et la mesure de la criminalité. On sait fondamentalement très peu de choses. En France, c'est la même chose au niveau international, on sait très très peu de choses sur la mesure de la criminalité.
C'est quand même important ce que vous dites là. C'est-à-dire que j'ai lu encore tout à l'heure des chiffres dans Le Monde, qui est un quotidien sérieux, de référence, et ça a baissé, ça a augmenté. Vous nous dites non.
Je dis non. Je dis, en tout cas, les chiffres qui sont publiés ne nous disent à peu près rien sur la question de la délinquance. Alors, ça ne veut pas dire que ces chiffres ne disent rien. Quand on nous dit, les chiffres ont monté, les chiffres ont descendu, en fait, ce sont des chiffres qui mesurent essentiellement l'activité des services de police et de gendarmerie. Plus les services travaillent, plus les chiffres montent. Plus les services travaillent sur un sujet particulier, par exemple, la question du recel de drogue, plus les chiffres de saisie de drogue vont augmenter. Que demain on multiplie par 10 le nombre d'inspecteurs du travail, et vous verrez que les fraudes à la législation sur le travail seront multipliées par 10 ou par 15.
Donc moins d'inspecteurs de travail, moins de policiers, moins de zèle, et le chiffre de la délinquance et la criminalité diminue. On a une solution, c'est formidable alors.
Mais cette situation...
Ne faites rien, amis policiers. Restez dans vos bureaux.
Cette solution est d'ailleurs très utilisée en période électorale. Et de la même manière, les chefs de police localement doivent bricoler, je dirais, avec leurs statistiques. Je vous citer un exemple que je trouve qui est amusant, qui est un chef de police de région parisienne qui m'a raconté. Il me dit, c'est très simple, il dit, je reçois des consignes de ma direction de mieux recevoir les plaintes. Il dit, donc, au lieu de mettre là un bras cassé que je voulais nulle part ailleurs, je mets quelqu'un de bien formé, qui reçoit les gens et qui prend bien les dépôts de plaintes. Il dit, je prends mieux les dépôts de plaintes, automatiquement, j'ai mes chiffres qui augmentent. Il dit, et dans le même temps, j'ai ma direction qui vient et qui m'engueule en me disant, vos chiffres ont augmenté, c'est scandaleux. Il dit, j'ai donc un centre commercial régional sur ma circonscription. Au lieu de prendre les plaintes pour 800 euros de dommages, je les prends pour 1200 euros de dommages. Et comme ça, je rétablis ce que j'ai gagné en prenant mieux les plaintes, je le perds en refusant un certain nombre d'autres choses. Et c'est ça, la construction des chiffres.
Donc, si on vous suit, imprécision totale, donc imprécision du mot insécurité.
Alors, c'est justement tout l'intérêt de l'insécurité. C'est que l'insécurité repose même sur l'imprécision. La question de l'insécurité ne pourrait pas exister si on essayait de la définir précisément. C'est surtout une catégorie fourre-tout pour appréhender toute une série de problèmes sociaux, pour appréhender toute une série de groupes sociaux, pour appréhender tout un tas de quartiers, les quartiers populaires notamment. Il est très intéressant de voir par exemple la campagne pour l'élection présidentielle de 2007 où on a très peu parlé d'insécurité. À la différence, vous vous souvenez peut-être de l'élection 2002 où on en a parlé hystériquement. On nous dit finalement l'insécurité, vous voyez, on n'en parle plus tellement. Mais tout simplement parce que l'insécurité était tellement intégré dans les têtes de l'essentiel des principaux candidats à la compétition présidentielle que chaque fois qu'ils ont parlé d'un sujet, qu'ils aient parlé de l'école, qu'ils aient parlé de la maltraitance infantile, qu'ils aient parlé de problèmes d'urbanisme, qu'ils aient parlé de problèmes de jeunesse en général, tout ramenait invariablement à une approche sécuritaire. Si vous voulez, pour le dire en un mot, on pourrait dire qu'entre le début des années 80 et le début des années 2000, l'insécurité est devenue une sorte de lunette au travers lesquelles on va percevoir une série de problèmes sociaux.
J'allume ma télé, je vois un petit gars bien sapé. Il m'a dit que ça craint, que dehors, faut pas y aller. Que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité, alors je dois rester chez moi. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Je me dis qu'il fait froid. Il a peut-être raison, il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle.
Et confiance.
Bonsoir, bonsoir. Ensuite ils font parler un type qui a pas l'air de manquer de fric. Il me dit que si je veux respirer, c'est pour lui qu'il faut voter. Prendre ma carte du parti, lui filer quelques billets. Il me dit que si l'air est pollué, si les Français sont stressés, c'est la faute des immigrés, des clochards et des BD. Pareil. La France a peur, tous les soirs à 20h.
Alors ce qu'on va faire, Laurent, c'est quand Renaud Lambert a préparé une série d'archives, hein, qui retrace et qui suit votre bouquin, qui, je le rappelle, est une histoire sociale de l'insécurité. Donc on va prendre des éléments d'histoire et on va commencer par ceci.
Sécurité, liberté, Alain Perfit satisfait. Le texte permettra une lutte plus efficace contre la criminalité violente, nous dit le garde des Sceaux.
Sécurité et liberté, c'est une loi qui doit permettre une lutte efficace contre la criminalité violente. Les homicides crapuleux, les hold-up, les prises d'otages, le proxénétisme, les viols, les cambriolages, le vol avec violence, les sacs à main arrachés, les attaques dans le métro. Depuis 1970, face à une montée inquiétante des actes de violence, de nombreux Français ont peur, ils vivent dans la hantise de l'agression, et c'est pas un produit de leur imagination. Il est exact que la criminalité a doublé ou triplé pendant cette période.
Pour Huguette Bouchardot, candidate du PSU à l'élection présidentielle, le projet de loi Sécurité et Liberté est une honte, je cite, « Notre gouvernement, a-t-elle dit, a choisi délibérément le côté de la guillotine pour une justice qui lui rapporte des voix ». Fin de citation.
Voilà, c'est Jean-Claude Bourret, vous l'aviez reconnu, ami auditeur aux oreilles fines, et c'est Alain Perfit qui, en ce 20 décembre 1980, présente sa loi Sécurité-Liberté.
Alain Perfit est alors garde des Sceaux, qui fait voter une loi, qui est la loi Sécurité-Liberté au début des années 80, qui est une loi qui sera fondamentalement une loi anti-casseurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est encore on est sur la queue de comète de la violence des groupes d'extrême gauche des années 70, et ça sera fondamentalement une loi anti-casseurs. Et une loi qui est finalement une loi assez répressive. Parmi les mesures qui sont proposées, il y a par exemple le passage de la garde à vue de 48 à 72 heures. Les députés socialistes à l'époque disent que ces lois sont plus liberticides que les lois de Vichy. Et le député communiste également, en disant bah, ceci, c'est du fascisme, ce sont des lois d'exception. Je vous rappelle simplement, dans une mesure, que la loi de 2006 en France a fait passer la garde à vue à 6 jours. Donc on n'est plus à 72 heures, mais on est à 6 jours. Et que le groupe socialiste au Parlement s'est courageusement abstenu lors du vote, après avoir déclaré qu'il était d'accord. On mesure, vous voyez, le chemin parcouru, finalement, en 20 ans. Alors que le début des années 80, c'est fondamentalement une vision qui ne fait pas une grande place aux questions de délinquance dans le programme socialiste. Hein. Je dirais, si on regarde le programme socialiste de 81, on ne trouve rien sur ce sujet-là. On retrouve plutôt des grandes valeurs qui sont l'abolition de la peine de mort, l'abolition des cours spéciales de justice, la Cour de sûreté de l'État, par exemple, et une opposition, finalement, aux mesures, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont les mesures réactionnaires défendues par une droite conservatrice qui avait jusque-là, je dis, on pourrait dire, le monopole de l'ordre. C'était l'ordre, c'est la droite, la liberté, c'est la gauche.
En 1964 était inaugurée la merveilleuse cité des Minguettes.
Eh bien, les Minguettes, c'est une véritable ville qui s'élèvera dans quelques années sur le territoire de Vénissieux, au sommet de la montée des Clochettes. Une ville qui pourra accueillir 50 000 personnes et dont vous voyez la maquette. Les premiers travaux sont commencés. Actuellement, on installe l'égout collecteur qui rejoindra celui de Saint-Fond, un égout constitué par des éléments de 1200 kilos. Les Minguettes, cité de l'avenir.
Je disais tout à l'heure qu'effectivement, on ne sait pas grand-chose sur les évolutions de la délinquance et de la criminalité. Par contre, ce qu'on sait, ce sont les évolutions des quartiers et des milieux populaires durant ces 30 dernières années. C'est-à-dire que depuis la guerre, je dirais, les milieux populaires ont été très profondément transformés, je dirais, entre la guerre et les années 70, et entre les années 70 et aujourd'hui. Et c'est sans doute là-dessus qu'il faut revenir. Je crois que ce document sur la Minguette est vraiment intéressant, puisque 64, on voit la construction d'un grand ensemble, l'avenir radieux, je crois que le mot est prononcé. On est sur une période pensée, la France sort de la guerre, dans une situation avec un exode rural très important, beaucoup de gens affluent dans les villes, dans une situation avec des destructions importantes liées à la guerre, avec un boom démographique important, et la question du logement est véritablement centrale. Un hiver 54, l'abbé Pierre, la crise du logement en France, c'est le début de la construction par les pouvoirs publics d'un certain nombre de quartiers pour loger massivement les gens. Je vais vous donner un simple chiffre. Entre 1954 et 1977, on a construit 6 millions de logements en France. Vous imaginez, c'est colossal. Avec les contraintes donc, et les contingences de l'époque, c'est-à-dire la velléité de construire rapidement et peu cher. Rapidement et peu cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire avec du béton, le chemin de grue, on met des grues et on construit. Alors, c'est la grue qu'on met au milieu et qui construit les quatre bâtiments. Voilà, c'est simple, c'est ça. Et construire peu cher, ça veut dire construire sur les périphéries des villes, là où le terrain, justement, n'est pas cher. Et c'est comme ça qu'on voit, je dirais, dans la plupart des grandes villes françaises, fleurir dans les périphéries ces cités nouvelles, qui représentaient à l'époque, et ça je crois qu'il faut quand même le dire, un véritable mieux-être social. Des gens passaient de taudis à des endroits où il y avait l'électricité, le chauffage, etc.
Alors quand est-ce que ça se gâte et pourquoi ?
Ça commence à se gâter à partir du milieu des années 70. Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que les fractions les plus favorisées de ces quartiers, très souvent des ouvriers spécialisés, vont les quitter pour aller s'installer dans des pavillons. Il y a à l'époque, 77, ce sont les lois Barre, donc vous avez des lois très favorables pour la construction, qui favorisent les gens qui veulent partir et devenir des petits propriétaires. On a à l'époque la République giscardienne triomphante, on veut asseoir la petite propriété qui est la base du conservatisme social, donc on favorise l'accès à la propriété, et la France se couvre des lotissements, Maison Bouygues, Maison Phénix, hein, se développent à cette époque-là.
Les Chalandonnettes.
Les Chalandonnettes. Donc un développement, donc un départ, je dirais, des fractions les plus favorisées, et des transformations de l'appareil de production français liées aux deux chocs pétroliers de 73 et 79, qui vont appauvrir. C'est l'arrivée du chômage de masse chez les ouvriers, c'est le développement massif des contrats à durée déterminée, c'est-à-dire de l'intérim, de la précarité. Donc une paupérisation, précarisation de ceux qui restent.
Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air sérieux, sérieux. Je suis un loubard périphérique, j'en ai plein les bottes de ce bled. La France est une banlieue merdique, comme dit mon copain Mohamed. Aux flics, aux flics. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. C'est drôle, le bitume est tout bleu, y'a ma bécane qui crame par terre. Bon Dieu, bon Dieu, oh bon Dieu, bon Dieu.
Ne pas dramatiser, c'est la vie générale. Bien sûr, la population du quartier est inquiète, d'autant plus que certains médias se sont plu à comparer les quelques débordements de Vénitieux aux violentes manifestations d'Outre-Manche. Pour la police, le désœuvrement allié au beau temps et à la fin de l'année scolaire a transformé un groupe de jeunes aimant un peu trop faire la fête en une bande de casseurs d'occasion. Le fossé entre l'un et l'autre n'est parfois pas très large.
Alors nous allons, sur le plan de la prévention, ouvrir un poste de police pendant la période d'été aux Minguettes. Sur le plan de la protection, je voudrais que le public sache que sur simple appel du 17, nous intervenons immédiatement.
Pour la mairie de Vénitieux, la clé du problème réside dans la revalorisation des grands ensembles.
Là, on est le 10 juillet 1981. On parle déjà de revalorisation des grands ensembles. C'est l'été chaud des Minguettes. On voit qu'entre le document précédent qui datait de 64, 17 ans plus tard, l'avenir radieux n'est plus ce qu'il était.
Tout à fait. C'est-à-dire que les mouvements de fond, les profondes transformations qui affectent les quartiers populaires dont je parlais tout à l'heure vont avoir des effets particulièrement dramatiques sur la jeunesse. Dans la mesure où les enfants des milieux ouvriers vont être particulièrement touchés par ces nouvelles conditions, je dirais, à la fois du marché du travail, par l'allongement de la scolarité. Pensez que justement la fin des années 70, c'est également une période d'allongement, de massification ou de généralisation de l'enseignement secondaire. Pendant très longtemps, l'enseignement secondaire était réservé aux enfants de la bourgeoisie. Là, vous avez une généralisation scolaire qui s'opère à partir de la fin des années 60 et qui commence à donner à plein, je dirais, à la fin des années 70. Donc des jeunes qui ne vont plus se penser tellement comme ouvriers ou comme ouvriers en devenir puisqu'ils ont fait des études. Et en même temps, où les nouveaux diplômes qu'ils peuvent acquérir se sont dévalorisés du fait de leur développement. Plus, si le baccalauréat, il y a 10% de la population qui l'a, ça vaut beaucoup. S'il y a 30% ou 40% de la population qui l'a, ça vaut beaucoup moins. Donc on se retrouve avec, dès le début des années 80, des jeunes qui restent sur les quartiers, qui commencent à faire un certain nombre de petites conneries. Ça va être les rodéos. Le rodéo, c'est quoi? C'est on vole une voiture, on vole un scooter, on fait du gymkhana dans le quartier.
Un petit tour de piste.
Et puis à la fin, on le brûle. C'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec des sociabilités adolescentes. Du genre, je vais vous montrer que je suis plus courageux que vous, que je veux prendre plus de risques. Bon, qui a à voir avec ça. Mais qui vont générer effectivement au moins une attention, une alerte sociale dans un certain nombre de quartiers et une alerte des pouvoirs publics. C'est-à-dire que ça, c'est très important, c'est que 81, c'est aussi une alternance politique, c'est-à-dire une relève du personnel politique, et là, la gauche qui arrive nouvellement au pouvoir va prendre en compte, je dirais, ces phénomènes.
Mais dans votre environnement, il n'y a que des familles immigrées. Est-ce que la cohabitation se passe bien?
Le problème, il vient pas de là. Le problème, il vient du fait qu'on a mis ensemble des gens avec des problèmes. C'est pas nier qu'il y a un fort pourcentage de chômage, que bon, si on est entouré de familles immigrées, les travailleurs, donc les pères de famille, eh ben, je suis désolée, mais ils tiennent pas les rênes de notre administration, ils sont pas cadres, ils sont tout simplement en manœuvre. Donc, ils vivent des conditions de vie pas toujours agréables, il faut le reconnaître pour chaque jour. Je dis que nous, au sein de cette communauté, on est des privilégiés, on a la possibilité de partir en vacances, de sortir de là, et ça nous pèse. Alors, on comprend très bien que pour ces gens qui passent 12 mois de leur vie ici, dont les enfants passent 2 mois et demi au pied des immeubles, il peut naître une violence incroyable.
Alors, ce qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que toute cette période de l'âge d'or, je dirais, de la construction des logements sociaux et du parc HLM dans les années 50, 60 et 70, a laissé de côté toutes les populations immigrées. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose de très clair. Pourquoi on a encore le bidonville de Nanterre en 70, je dirais, au début des années 70, et qui est un bidonville qui rassemble plus de 10 000 personnes à l'époque, ce n'est pas rien. C'est tout simplement parce que les bailleurs municipaux, les offices HLM, ont toujours tenu à l'écart les populations migrantes de ce parc HLM. Et c'est un des effets classiques, pourrait-on dire, du marché, c'est que c'est le départ, à la fin des années 70, des plus favorisés de ces logements-là, qui, rendant des logements vacants, vide, va ouvrir la porte, tout simplement pour des questions de coûts économiques, les bailleurs ne veulent pas avoir des appartements vides, à des familles immigrantes. Et l'accélération de la crise au début des années 80 fait que, effectivement, ces quartiers vont commencer à recevoir des populations migrantes de plus en plus importantes. Et je crois que cette femme le dit très bien dans son témoignage. La question n'est pas que ce soit des migrants qui viennent. La question est effectivement qu'il y a une concentration des situations de précarité sociale qui va générer des tensions nouvelles à l'intérieur même de ces quartiers, entre familles, pour accéder aux logements sociaux, pour accéder aux prestations sociales, pour accéder aux bourses pour l'école, aux bourses pour la cantine, aux loisirs, à tout ça. Et pas mal de ces tensions entre familles, vont pouvoir se vocaliser, se vivre sur le mode raciste. En disant, oui, les Arabes, c'est eux qui ont tous les bons pour la cantine, alors que nous, etc. Là-dessus, vous avez un terreau, finalement, de certaines de ces tensions qui vont se traduire de cette manière.
La France a peur. Oui, la France a peur et nous avons peur.
Mais...
Auteur de ces incidents, des jeunes, souvent d'origine maghrébine.
Les rues de Paris ne sont plus sûres.
C'est que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir.
Mon nouvel épicier, monsieur Rachid Jerkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18e. Et j'aime bien monsieur Rachid Jerkaoui. J'aime bien, c'est vrai. Il est arrivé dans le quartier il y a 6 mois, il venait de racheter le fonds de commerce de monsieur et madame Lefranc, qui périclitait. Il faut dire que pendant les heures d'ouverture du magasin, madame Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que monsieur Lefranc en profitait pour aller boucher la bouchère. Le reste du temps, l'épicier se recroquevillait sur des enfilades de ballons de muscadet, au rendez-vous Montmartre de la rue Colincourt, en compagnie de monsieur Leroy, le boucher. Ah oui, les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun une certaine idée de la France faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale les rapprochait encore. Chaque soir, quand monsieur et madame Lefranc finissaient par réintégrer l'épicerie à l'heure de Colaro, ils se dépêchaient de fermer pour pas rater Bouvard. Si bien que les clients éventuels, lassés de poireauter au poireau, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers les grandes surfaces. « Femme !» dit un soir monsieur Lefranc, avec dans le ton une solennité qui ne lui était pas coutumière. « Femme, nous sommes prises à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. C'est dur à dire, femme, mais nous allons devoir vendre l'épicerie. » Madame Lefranc opina du sous-chef, car c'était une femme réservée. Or, l'épicerie, forcément, dans l'état où elle était, personne n'en voulait. À quelque temps de là, alors qu'il gloutait ses petits blancs en maudissant le Maghreb, Vichy Saint-Yor et les établissements Mammouth, monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de type relativement basané. « Bonjour, monsieur, dit le petit homme. Vous êtes bien monsieur Lefranc ?»«
Et qu'est-ce qui me veut, ce melon ?»
dit monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. « Je vous demande pardon, dit le petit homme. Je ne suis pas un melon, je suis épicier. Je m'appelle Rachid Jarkaoui. J'ai entendu dire que vous cédiez votre magasin. Ça m'intéresse, voilà, c'est tout. »
« Oh ben merde alors !» dit monsieur Lefranc en tapant sur la table. « Ça me ferait vraiment trop chier de voir un feignant de bigot dans mon magasin. Plutôt crever !»
Après cet ainsi brillamment exprimé, monsieur Lefranc se dit qu'il n'aurait probablement pas deux fois la chance de rencontrer un pareil gogo. Et dès le lendemain matin, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à monsieur Rachid Cherkaoui. Puis il prit le train à Montparnasse, pour aller finir ses jours en Morbihan dans sa villa, Ker Mein Kampf. En compagnie de madame Lefranc, qui se consolait déjà de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant le projet d'aller barater le crémier de la rue du Varec de Quimperlot les deux crêpes. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Et je dois dire que dans le quartier, nous sommes très contents de notre nouvel épicier. Vraiment. Pour des feignants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander quand ils regardent les jeux de 20h.
Un nouveau spot publicitaire va faire son apparition dans quelques semaines sur vos écrans de télévision.
Que faisons-nous ? Que faites-vous ?
Marcher sur un fil, le fil de la vie, et puis un jour peut-être tomber. Le tournage de ce spot de 45 secondes, financé par la Fédération Nationale des Assurances, a coûté 600 000 francs. Objectif, sensibiliser l'opinion publique. 35 maires de toutes tendances politiques font partie du Conseil National de Prévention de la Délinquance. Ce spot, la solution pour la prévenir.
Conseil National de Prévention de la Délinquance, pour faire un bout de chemin ensemble.
Voilà, la solution, c'est un spot publicitaire qui représente des jeunes gens qui marchent sur un fil et qui sont aspirés par qui peuvent être aspirés à tout moment sur le mauvais côté. La vie est un fil et on marche dessus. Pof, on peut tomber du côté de la délinquance ou du bon côté. Alors, je sais pas comment on fait pour éviter de tomber du mauvais côté. Mais enfin, en tous les cas, il y a ce spot qui est offert par des compagnies d'assurance. Donc voilà, là, on est quand même rassuré.
Alors, je suis pas complètement convaincu que cette campagne. Et suffit pour éviter que les gens, certaines personnes tombent.
Oui, mais ça a coûté 600 000 francs. Hein.
600 000 francs, c'est pas
mal.
De
l'époque.
Alors, ce qui est intéressant à cette époque-là, c'est le développement, effectivement, de ces structures de prévention de la délinquance. Donc là, le spot, on fait mention du Conseil national de prévention de la délinquance. C'est-à-dire qu'un certain nombre de structures de prévention de la délinquance vont se développer au niveau national et au niveau local, avec notamment les conseils communaux de prévention de la délinquance, qui réunissent au niveau local l'ensemble des acteurs associés à la prévention de la délinquance. C'est-à-dire l'idée, à un moment donné, au sein du gouvernement socialiste et communiste de l'époque, que finalement, s'il existe des désordres dans ces quartiers, s'il y a un certain nombre de problèmes, c'est que finalement, il y a une série de causes globales qu'il faut prendre en compte et qu'il faut traiter simultanément si on veut en finir avec ces désordres-là. Et ces causes globales, c'est quoi ? C'est, on se dit, ben, ces quartiers ont été construits rapidement dans les années 60, aujourd'hui ils commencent à être dégradés, ça va être l'idée, donc il va falloir les repeindre, voilà, ça va être l'idée que ces quartiers ont été construits comme des quartiers dortoirs et que donc il n'y a absolument aucune animation, aucune vie dans ces quartiers, donc il faut faire du développement social des quartiers, ça veut dire qu'il y a des problèmes de toxicomanie et donc il faut faire de la prévention de la toxicomanie. Bon, c'est l'idée fondamentale à l'époque qu'il existe un certain nombre de causes sociales au désordre, de causes sociales à la délinquance, et qu'on ne pourra faire diminuer ces désordres, cette délinquance, qu'en agissant sur ces causes sociales.
Oui, mais l'une des causes sociales essentielles, on est en 1982, c'est quand même la montée du chômage, et notamment chez les jeunes.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, le rapport de Schwartz, qui est sur l'insertion des jeunes, propose un certain nombre de mesures dans ce sens. Et donc, on a cette dynamique qui est importante, avec une vraie réforme. Enfin, je crois que ce qui est fondamental sur cette décennie, c'est que toute une série de manières de voir les choses telles qu'on pouvait les voir depuis la guerre changent. Et c'est notamment, on va retrouver dans toutes ces structures de la politique de la ville une nouvelle manière de concevoir la question sociale. C'est-à-dire que toute la dimension de l'égalitarisme républicain qui fondait finalement la Ve République, en disant bon, les institutions et l'ensemble des administrations publiques doivent offrir le même service public à l'ensemble des citoyens. C'est la citoyenneté qui fondait l'accès aux services publics, vont développer en disant...
Ça on le retrouvait à gauche comme à droite. Cet horizon-là était celui de la gauche et de la droite, réduire les inégalités sociales, redistribuer, le principe d'égalité prévalait.
Tout à fait, c'était un consensus très très fort, justement depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, on va avoir l'idée, prenant acte du fait que dans un certain nombre de quartiers, les services publics ne sont pas à la hauteur. Et ça va être l'idée qui va se développer en France et qui est nouvelle, qui est finalement une forme de discrimination positive, en disant il faut mettre plus de moyens sur des quartiers, sur des populations qui ont plus de difficultés. Je dirais l'idée n'est pas forcément mauvaise en soi, je dirais elle est plutôt même généreuse. Sauf que on est dans une période dans laquelle le tournant de la rigueur, en 84, vous vous souvenez, il y a un tournant de la rigueur important. C'est-à-dire qu'on change un petit peu les manières de faire de l'État ou de faire de l'administration. C'est-à-dire qu'on a une réduction des moyens de la puissance publique. Une réduction drastique des services publics. Et un des paradoxes, pourrait-on dire, de la politique de la ville, c'est qu'on va remettre des enseignants, des infirmières, des médecins dans un certain nombre de quartiers difficiles. On va en mettre 3, 4, alors qu'on en a enlevé 10 sur crédit de droit commun. Va se développer une nouvelle philosophie de l'État, une nouvelle territorialisation de la question sociale, c'est-à-dire qu'on ne va plus penser la question sociale comme une question de conflictualité sociale, d'inégalité sociale, mais comme quelque chose qui est territorialisé. C'est le problème d'un certain nombre de territoires qui cumulent des handicaps, par exemple. Mais c'est aussi toute cette idée qu'à partir du moment où on a des territoires qui sont sur des handicaps, on va glisser très facilement du handicap à la responsabilité individuelle. Et là, on retombe sur l'image directe du fil, c'est-à-dire finalement, chacun est entrepreneur de sa propre existence. Une vieille idée libérale, finalement.
C'est l'idée de Nanard.
C'est l'idée de Nanard, et ce n'est pas un hasard si Nanard sera justement premiers ministres de la ville.
Alors, mais quel lien entre tout ce qu'on est en train de se raconter là, c'est-à-dire l'histoire des quartiers, de la réhabilitation, de l'habitat, etc., et le thème de votre bouquin sur la sécurité?
Justement, tout ce qui se passe durant les années 80, c'est l'expérimentation, ou en tout cas au travers de l'ensemble du terme générique des politiques de la ville, qui est une forme, l'une des manières d'appréhender cette thématique-là. Cette thématique-là, on va le voir, bascule clairement au tournant des années 90, c'est-à-dire que cette idée qu'il y avait un certain nombre de causes sociales au désordre, et que agir simultanément sur l'ensemble de ces causes sociales ferait disparaître les désordres, je dirais, est ruiné politiquement et médiatiquement par les émeutes de Vaux-en-Velin en 1990.
En France, les clignotants virent au rouge. Vol, drogue, immigration clandestine.
Urbanisme sauvage, béton, grands ensembles.
Les crimes et délits ont augmenté de 4,27% en 89.
Vaux-en-Velin, qui comme Vénissieux, a longtemps traîné derrière elle l'image de la cité dortoir.
Une voiture brûlée, une de plus.
Principaux responsables, la délinquance liée à la drogue.
Une banlieue dont les habitants sont en majorité des immigrés.
L'immigration clandestine, les vols de voitures et les vols à main armée.
Création de brigades anti-criminalité.
Trop tard, les dealers ont réussi à disparaître dans l'obscurité.
Il s'agit de super gardiens de la paix.
Une quarantaine de jeunes ont incendié des voitures et brisé des vitres.
Deux femmes ont été attaquées à coups de couteau.
Aussi, quand on sait que Vaux-en-Velin avait bénéficié d'une politique de développement social des quartiers.
La tour d'escalade, inaugurée la semaine dernière, devait couronner ce succès. En deux jours, les espoirs se sont envolés. Alors aujourd'hui, on essaye de comprendre.
On continue avec Laurent Bonelli. La France a peur, une histoire sociale de l'insécurité. Là, Laurent, c'est Vaux-en-Velin, c'est 1990.
En 1990, bon, Vaux-en-Velin, bon, il faut savoir d'abord ce qui déclenche la crise, ben, c'est la mort d'un jeune qui est tué dans un choc avec une voiture de police. Thomas Claudio, qui meurt sur le choc. Et là, donc, le quartier s'embrase, je dirais un peu comme d'habitude. Et, alors en plus, cet événement sera suivi, je dirais, dans donc là, on est en 90. Entre 90 et 91, on va avoir une série, comme ça, de flambées de violence dans une série de quartiers. Donc, vous avez Sartrouville, vous avez Melun, ou pour des raisons similaires, hein, très souvent. Et on va avoir une remise en cause très profonde, politiquement et médiatiquement, des politiques de la ville. C'est-à-dire qu'on va, de manière assez paradoxale, oublier complètement pourquoi ces quartiers ont brûlé. Et on va dire, bah, finalement, regardez, si ces quartiers, qui avaient reçu l'intégralité des politiques de la ville antérieures, brûlent, c'est bien que ces politiques ne servent à rien. Notamment, on retrouvera au Mas du Taureau un fameux mur d'escalade qui sera cité partout. On dira, mais regardez, ces gens ont même construit un mur d'escalade et ils brûlent tout. C'est bien vous dire que c'est politique de la ville.
Après tout ce qu'on a fait pour eux, quoi.
Après tout ce qu'on a fait pour eux, et je le rappelle, on oubliera simplement que des jeunes du quartier sont morts, ça on l'oubliera un petit peu. Et alors là, effectivement, ça va sonner dans une certaine mesure le glas de la politique de la ville comme moteur ou comme solution que l'on va donner au désordre. On va dire, si ça, ça ne marche pas, il faut passer à autre chose.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pend. Par la répression, stopper net la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho. Ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'est été de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu?
Ce scrutin confirme largement la déroute du Parti socialiste ainsi que celle imprévue des écologistes. Le Parti communiste regresse lui aussi par rapport aux élections législatives et le RPR et l'UDF. Malgré les proclamations victorieuses et malgré une situation politique exceptionnellement favorable à l'opposition, se maintiennent sans progresser. En revanche, le Front National enregistre une poussée de 30 à 40%, confirmant qu'il est désormais une force politique de recours.
Une force politique de recours.
Alors, je crois qu'il faut, bon, il faut d'abord rappeler que les résultats des législatives sont véritablement un désastre pour le Parti Socialiste, puisque le PS ne conserve que 67 sièges à l'Assemblée nationale contre 485 pour la droite. Et l'élément majeur, effectivement, c'est la présence du Front National dans le jeu politique. Ce qui va poser une double question aux principaux partis politiques, et notamment au Parti Socialiste, qui est à la fois la question de l'abstention et la question du Front National. Vous vous souvenez peut-être que beaucoup de commentateurs politiques ont célébré le retour de la démocratie quand on a eu un fort taux de participation à l'élection présidentielle de 2007. Vous avez obligatoirement vu cela. On a un peu oublié, et très rapidement derrière, que les législatives suivantes, donc de juin, ont été les législatives avec le taux d'abstention le plus élevé de la Ve République. 40% d'abstention. Pensez que, durant toutes les années 90, on a des taux dans les quartiers populaires qui sont absolument élevés. 50, 60, 70% d'abstention. Auxquels il faut rajouter 20 à 30% d'étrangers non communautaires qui n'ont pas le droit de vote, et 10 à 20% de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Si vous avez un faisceau de convergence, qui est d'une part une désaffection pour la politique, et désaffection qui pose surtout problème aux partis de gauche. Deuxième phénomène, la montée du Front National, qui est régulière depuis le début des années 80, et qui fait effectivement son beurre sur l'immigration, l'insécurité, etc.
Voilà derrière quoi court Julien Drey.
La société française est au bord de l'explosion. Elle risque d'éclater du fait des banlieues et de la violence qui règne. Cet avertissement alarmiste est extrait d'un rapport parlementaire de 80 pages sur la violence des jeunes dans les banlieues. Son auteur est l'invité de cette édition. Il s'agit de Julien Drey, député socialiste de l'Essonne et qui fut un des membres fondateurs de SOS Racisme. Julien Drey, bonjour. Vous y allez un peu fort, non ? La situation est catastrophique à ce point ?
Écoutez, l'objet du rapport, c'était de voir si nous avions une américanisation de nos banlieues. La réponse est négative. Nous n'avons pas les phénomènes qu'on a pu connaître à Los Angeles, c'est-à-dire l'émergence de bandes ethniques organisées, structurées, qui font régner un état de non-droit dans un certain nombre de zones géographiques. Mais il y a des faits inquiétants, des sites qui aujourd'hui ont dérapé, et ces phénomènes inquiétants, s'ils ne sont pas traités rapidement et si les mesures ne sont pas mises en application, peuvent effectivement créer cet éclatement possible entre, je dirais, des populations exacerbées par ce qui se passe et la réalité de ces sites.
Et fait inquiétant numéro un, c'est la drogue. Vous dites que certaines cités sont devenues des lieux de stockage et d'approvisionnement en drogue, et vous parlez même de logique mafieuse.
Ce qui structure cette délinquance aujourd'hui dans les cités, c'est effectivement le trafic de stupéfiants. Et il faut effectivement là que la répression s'organise et qu'elle soit performante.
Un jeune couple soupçonné de 11 agressions interpellé dans le 18e arrondissement de Paris. Selon la police, l'homme et la femme, tous les deux toxicomanes, avaient besoin de 3000 francs par jour pour se payer leur dose quotidienne d'héroïne.
Là, on a un glissement de l'idée de ces causes sociales à la question de la responsabilité individuelle. Et je crois que c'est intéressant de voir que, bon, Julien Drey, qui après avoir été syndicaliste étudiant, après avoir été un membre fondateur de SOS Racisme, justement, est celui qui tient le discours le plus radical à l'époque, et l'un des plus fervents partisans, je dirais, de l'action policière et judiciaire pour régler la situation des quartiers. Et ce n'est pas un hasard si la sécurité arrive pour la première fois explicitement dans le programme du Parti Socialiste, dans le programme du candidat Jospin en 1995. On va avoir une convergence, déjà une reconfiguration des équilibres politico-médiatiques au début des années 90, et une convergence de critiques, un faisceau de critiques qui va converger de la droite vers le gouvernement en place, au sein de la gauche, et notamment de Julien Drey, va être l'auteur d'un rapport très assassin sur ces questions-là, et les médias vont participer, je dirais, à ce mouvement de remise en question de ce qui semblait être la logique de la décennie antérieure.
Histoire sociale de l'insécurité, la France a peur avec Laurent Bonelli. On y retourne demain. Demain sera plus les médias. Comment les médias exploitent, utilisent et répandent cette peur et cette insécurité, ce sentiment d'insécurité. C'était une émission préparée par Renaud Lambert. D'autre part, nous vous recommandons la pièce de Mohamed Rouhabi, Vive la France, qui sera jouée jusqu'au 1er mars au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Ça, c'est Charlotte qui vous recommande cette pièce. Le samedi 16 février, le spectacle sera suivi d'un débat de l'État-providence vers l'État-pénitence, traitement de la délinquance juvénile dans les banlieues françaises avec Pascal Blanchard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse où j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Claudine Lapersonne. C'est Yann Chouka et Koyeng Guyane qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et c'est Christophe Imbert qui se charge du répondeur de La Basse où j'y suis au 01 56 40 37 37.